Et on est de retour dans l'Afterwork, on est mercredi et nous a rejoint Olivier. Salut Olivier.
Salut Cyrielle, bonjour à toutes et à tous.
Tu es notre expert de l'Afterwork du mercredi, notre historien. Et aujourd'hui, on va parler des grandes expéditions à la rencontre des sommets des Alpes à l'Everest.
Voilà, tout à fait. On va parler de Mallory et Irvine, notamment de ces grandes expéditions, d'un point de vue historique, hein, j'entends. Tout simplement parce que j'ai eu la volonté d'évoquer ces sommets lorsque, il y a quelques jours, j'ai fait un petit tour par le Honeck, juste avant la fermeture de la route des Crêtes. Vous savez, cette route qui part de Sainte-Marie-aux-Mines pour aller à Offaltz.
Je pense que tu as eu du mal, hein. Il doit y avoir vraiment la dose de neige là-bas.
Ah bah c'était conséquent, alors j'ai déjà eu du mal à y aller. Et puis ensuite, pour la petite histoire, hein, j'ai pas tenu 5 minutes. Je suis reparti gelé, trempé, alors j'avais des chaussures montantes, mais rien n'y a fait. Et j'ai couru me réchauffer dans un petit restaurant juste à côté pour récupérer la fameuse part de tarte au brimbel au restaurant du col de la Schlourte. Alors le froid ressenti, la force du vent qui pousse vers les falaises, et c'est très impressionnant, bah, ça m'a rappelé que l'homme a su faire évoluer son corps pour aller à la conquête de terres jusque-là inexplorées.
C'est une réelle conquête ?
Oui, c'est une conquête parce que l'homme n'est pas adapté hein, biologiquement au grand froid d'altitude, j'entends d'altitude, hein, et à l'escalade des sommets. Si on parle en termes de biologie et d'écologie, les grandes découvertes dans les confins de la Terre ou de l'espace hein, ont été possibles que par ce qu'on appelle la création des accommodats artificiels.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un accommodat en biologie, on va résumer ça à grands traits, c'est une capacité qui est développée par un être vivant, en l'occurrence un homme, qui va lui permettre de s'adapter à des conditions pour lesquelles il n'est pas prévu dans son milieu naturel.
Et quels sont les accommodats ici ?
Ah bah très simplement, hein, si par exemple on veut aller dans l'espace, l'accommodat ici, ça va être cet engin qui va donner des ailes artificielles à l'homme, qui va lui permettre d'atteindre des altitudes qui étaient jusque-là alors inimaginables. Bah, c'est donc l'avion ou la navette spatiale. C'est également aussi en plongée, la réserve d'oxygène potable et portable surtout que vous avez sur votre dos, ou bien en altitude, la combinaison renforcée et l'équipement de pointe qui vont vous permettre de vous repérer autrement que par les sens et l'observation. Enfin bref, donc tout cela a fait qu'au 19e puis au 20e siècle, l'homme va repousser ses limites, les limites des explorations, et va atteindre des dépassements de soi qui étaient jusque-là inimaginables.
Et ces grandes conquêtes en montagne, dans ces paysages glacés, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, en premier lieu, si on veut parler date, on va partir en 1909 avec Monsieur Peary, P-E-A-R-Y, qui est un Américain, qui va effectuer l'exploration du pôle Nord. Alors il faut s'imaginer quelques petits éléments avant. Hein. À cette époque, on fait fi de tout l'équipement de géolocalisation de pointe qu'on connaît aujourd'hui, GPS et compagnie, ça n'existe pas. Hein. Donc c'est extrêmement difficile de se repérer sur place quand vous n'avez aucun point de repère différent des autres. Et puis ensuite, c'est aussi des conditions très rudes. Hein. Pour ceux qui ont besoin d'une image, il faut s'imaginer un homme de type Nicolas Vanier, mais en plus âgé, avec une barbe très fournie, hein, parce que je le rappelle, la barbe c'est un isolant naturel très efficace.
C'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps.
Ah non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps, non, c'est vraiment très efficace hein, la barbe en tant qu'isolant naturel. Alors cet homme, Peary, il est officier dans l'armée des États-Unis et il s'élance avec une petite équipe restreinte dans un trajet en traîneau et cette expédition réduite va faire face à une véritable guerre contre les éléments où quelques éclaireurs vont même y rester, hein, là où personne bien sûr n'est jamais allé.
Mais il y aura quand même une controverse sur sa réussite. La première expédition réussie serait donc plutôt en 1968 et on va ensuite parler des ascensions de monts célèbres, notamment bien sûr celle de notre Mont Blanc.
Oui, tout à fait. Notre Mont Blanc, la première ascension, par exemple, qui est un peu plus tôt dans notre chronologie, en 1786, hein, par Balma. Donc c'est tôt et c'est tard à la fois. C'est tôt dans le sens où on n'a pas attendu d'avoir des équipements de pointe, mais c'est tard dans le sens où, quand vous allez dans la vallée de Chamonix, vous voyez le Mont Blanc face à vous, et puis vous dites, bah, c'est incroyable que ça fait à peine 200 ans qu'on a réussi à l'escalader. Donc on a peine à comprendre, à imaginer qu'il soit resté aussi longtemps inaccessible au final. Et bien lorsque vous voyez aujourd'hui la caravane de grimpeurs, d'alpinistes, de guides qui s'élancent généreusement vers le Mont Blanc, et bien on comprend que cela est désormais à la portée du plus grand nombre. Et c'est ça qui est vraiment génial en soi. Alors je dis pas non plus qu'il est accessible à tous, hein, mais quasiment. Le premier frein, c'est bien sûr le prix de la course, hein, on parle de course pour une expédition. Il est tout à fait honnête, hein, on va parler entre 900 € et 2000 €, hein, pour une course avec un guide de la célèbre compagnie des guides de Chamonix.
Est-ce que tu le ferais, toi ?
Ah oui, oui, oui. Je suis allé au Mont Blanc en 2012, me semble-t-il, enfin dans la vallée de Chamonix, et je voulais le faire avec ma femme. On était partis billes en tête, enfin on était jeunes étudiants, on n'était pas très préparés. Sportivement on l'était, mais financièrement on l'était pas. Et je me revois arriver dans le bureau de la compagnie des guides de Chamonix et dire « Bon, comment on fait pour y aller ?» Bon, ils ont un peu rigolé, ils m'ont expliqué que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Hein,
je pense pas que tu peux partir du jour au lendemain.
Voilà, même si c'est quand même très bien rodé. Voilà.
Il y a des petites formations, je pense, quand même, pour apprendre à utiliser son oxygène.
C'est ça. Voilà,
tout ça,
bon, il y avait quand même des petits tests aussi, parce qu'ils vous font faire normalement une course un petit peu moins complexe, hein, histoire de voir quel est votre niveau. Bon, ça, j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que j'étais assez bien préparé. Mais c'était surtout l'aspect financier, plus de 2000 € selon la saison.
Faut l'avoir.
Voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est pour la course du Mont Blanc. Mais si maintenant vous voulez en faire une autre, hein, les tarifs sont tout à fait accessibles et relatifs. Si je prends par exemple l'arête du Rabouin, vous grimperez quand même à une altitude de 3150 mètres, ce qui n'est pas rien. Et en toute sécurité, bien sûr, avec un guide, et le tout pour 360 €. Donc vous voyez, on est quand même dans des tarifs assez abordables, sachant qu'on ne le fait pas tous les jours non plus.
Donc c'est le Mont Blanc qui est cher.
Oui, c'est le Mont Blanc qui est cher, mais non en même temps. Parce que, comme je viens de le dire, hein, on ne grimpe pas tous les jours de sa vie, et puis si vous souhaitez simplement une balade au pied du Mont Blanc, il y a une solution très simple, hein, pour les moins aguerris, c'est vous prenez le téléphérique directement à Chamonix, qui vous mènera d'abord au plan de l'Aiguille, aux environs 2100 mètres d'altitude, j'ai plus le chiffre exact en tête. Puis ensuite, après cette première étape, vous reprenez un autre téléphérique au plan de l'Aiguille qui vous amènera à ce qu'on appelle l'Aiguille du Midi. Et là, c'est à 3842 mètres.
Oh, presque on y est.
Exactement, exactement. Et donc, y a quand même 1000 mètres de différence encore, mais tout de même, c'est pas rien. Hein. Pour la première étape, pour votre information en termes de prix, on en a pour 30 € l'aller-retour par personne pour aller jusqu'au plan de l'Aiguille, à environ 2100 mètres d'altitude. Bon, c'est tout à fait correct. Et pour la seconde étape, vous en avez pour 60 € aller-retour, sachant que 60 € aller-retour, c'est 60 € depuis Chamonix, hein, c'est-à-dire vous payez pas en plus des 30 € 60 €.
Mais on soit bien d'accord. Pour moi, hein. Je pense voilà. Que m'asseoir sur un téléphérique, ça me plaît plus.
Ah, c'est vraiment sympa, ouais. Je l'ai fait, hein. Alors, j'étais même chose, jeune étudiant désargenté. Et donc, j'ai fait la première étape pour 30 €. Puis ma femme et moi, dès qu'on a vu le prix, les 60 €, on s'est dit, bon, multiplié par deux, ça fait un peu cher. Donc on s'est arrêté à la première étape, mais on était déjà très heureux. On a pu voir des marmottes à cette altitude-là quand même. Et puis on a pu aller voir ce qu'on appelle un lac de résurgence, c'est-à-dire un lac dont les eaux sont d'un bleu limpide parce que ça ressort de la roche. Enfin, bref, c'est d'une beauté. Petite parenthèse juste sur cette deuxième étape, dès que vous allez à l'Aiguille du Midi, il y a ce fameux pas dans le vide, cette fameuse cabine vitrée qui est dans le vide et qui est totalement gratuite. Vous y allez sans problème, ça fait partie des 60 €.
Ça par contre, jamais de la vie.
Ah, si, voilà, j'ai hâte de faire ça. Ça n'existait pas encore de tête, hein, dès que j'y suis allé, mais ça, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner pour le faire. Hein. Voilà. Bon, tout ça, c'est rien du tout comparé à, par exemple, une course sur l'Everest qui va vous coûter la bagatelle d'environ 50 000 € par personne.
C'est vraiment pour les fans.
Voilà, c'est ça. Bon, après, d'autres sommets des Alpes restent aussi auréolés de force, de mystique, hein, et de mythique, bien sûr. On peut évoquer, par exemple, la face nord de ce qu'on appelle l'Eiger. Alors, l'Eiger, il y a les deux prononciations, j'ai déjà entendu les deux, soit on dit Eiger, soit Eiger. Bon, peu importe. C'est une montagne des Alpes suisses qui reste mythique parce que les alpinistes s'y sont longtemps retrouvés coincés, isolés, et ils ont même trouvé la mort entre 1934 et 1936. En 1938, cette face nord de l'Eiger sera réussie par des Allemands et des Autrichiens, une équipe mixte, et ça servira entre autres, comme quoi l'histoire explique beaucoup de choses, ça servira entre autres de base à ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par Hitler. Voilà. Donc comme quoi, hein, c'est le lien entre montagne et dictature. Si on voulait vraiment le pousser très loin, une émission n'y suffirait pas.
Est-ce que tu peux nous en parler quand même un tout petit peu rapidement ?
Bien sûr, c'est en deux mots, on a aussi Mussolini qui va lancer ce même projet de lien entre montagne et dictature. Alors Hitler, je vous l'avais dit, bien sûr. Il faut savoir qu'Hitler, il va pousser ça tellement loin que la légende veut que... Alors je trouve que c'est plutôt une légende parce que j'ai jamais vu de traces officielles réelles derrière. C'est la légende veut qu'il avait décidé d'offrir une médaille en or au premier qui réussirait à franchir cette façade nord de l'Eiger. Et donc, il y a une rangée, une série d'alpinistes qui vont y aller dans les années 30, qui vont tous trouver la mort, hein, au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a un livre de Roger Frison-Roche qui évoque cette question-là. Il me semble de tête que c'est la Grande Crevasse. Et donc, il y a vraiment une série, une multiplication des risques pris. Et les morts se compteront par dizaines. Hein, c'est vraiment... tant était forte cette idée de servir de base au régime nazi, de montrer que l'homme aryen était supérieur aux autres hommes européens.
On continue, on fait un petit point maintenant sur l'Everest ?
Oui, mais alors l'Everest... pourquoi l'Everest ? Tout simplement parce que bien sûr c'est le toit du monde, hein, c'est le sommet du monde, mais c'est aussi une ascension qui est restée célèbre. Nous sommes en plein territoire asiatique, hein, si on replante un petit peu le décor, et cela n'est malheureusement aujourd'hui réservé qu'à une élite, hein, notamment une élite financière, chose qui m'agace d'ailleurs au plus haut point. Je rêve de faire cette escalade, hein, je l'avoue, tout comme je rêve de faire le Mont Blanc. Alors le Mont Blanc, je pense que ça sera faisable, l'Everest, j'ai un peu de mal, parce que, je le confesse, ma femme ne veut pas m'offrir pour Noël ce fameux billet aller-retour à 50 000 $ ou 50 000 €, pour aller à l'Everest.
Je pense qu'il faut que tu te lies d'amitié avec un grimpeur.
N'est-ce pas ? Voilà, je me lie d'amitié avec un grimpeur. Plus sérieusement, je vais vous parler de Mallory et Irvine, qui sont les deux explorateurs qui ont entretenu et qui entretiennent aujourd'hui encore une légende vraiment persistante.
Alors on fait un retour dans le temps d'abord.
Voilà, alors nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juin 1924. George Mallory et Andrew Irvine sont deux Britanniques qui sont partis aux petites heures du matin du camp numéro 6 pour escalader celui qu'on surnomme le Colosse. Ils se sont levés très tôt, ils sont à 8 170 mètres d'altitude. Il reste plus grand-chose, hein. Je rappelle, l'Everest, c'est 8850 mètres d'altitude, et là, ils sont à 8170. Donc, ils sont proches de ce sommet qui tutoie le ciel. Ils se sont levés tôt parce que, ironiquement, malheureusement, on pourrait dire qu'on n'est jamais en retard le jour de sa mort. Donc, c'est un témoignage, celui de Noël Odell, qui entretient le mystère. Cet homme est arrivé peu de temps après au camp numéro 6, vers 14h. Et il aperçoit sur les sommets l'éclat fugitif d'un piolet. Alors il pense immédiatement qu'il s'agit de Mallory et Irvine qui continuent à escalader. Est-ce bien d'eux dont il s'agit ? On ne peut pas l'affirmer de manière sûre et certaine. Et puis c'est le temps de l'attente, de la redescente.
Une redescente qui n'arrivera jamais ?
Tout à fait, le mystère demeure. En 1953, un autre tandem, Hillary et Tensing, va arriver au sommet. C'est eux qui, officiellement, sont arrivés au sommet pour la première fois sur l'Everest. Mais on a envie de dire, qu'est-ce qui reste de l'expédition de Mallory et Irvine ? Est-ce qu'ils sont vraiment arrivés là-haut ou pas ? À défaut d'être redescendus ? Alors il faut savoir que de l'expédition de 1924, il ne reste pas grand-chose. En 1933, on découvre un des piolets, soit celui de Mallory, soit celui d'Irvine, on ne sait pas trop. Mais on le trouve à 8400 mètres d'altitude. C'est plusieurs centaines de mètres au-dessus du camp numéro 6 qui est à 8170. En 1999, on va également retrouver le corps de Mallory. C'est incroyable cette histoire-là. On va le retrouver totalement intact à 8300 mètres d'altitude. Alors certes, c'est 100 mètres de moins que le piolet, mais ça donne une bonne idée, parce que ça veut dire qu'ils sont arrivés à 8400 au minimum, et qu'ils sont redescendus à 8300. Donc des indices, notamment sur le corps, laissent penser qu'il y a eu une chute. Détails qui ont leur importance aussi. Les lunettes de soleil de Mallory sont rangées dans sa veste. Or, tout grimpeur le sait, tout montagnard le sait, pour monter, on s'arrange pour partir le plus tôt le matin, on part même de nuit, vers 2-3 heures du matin, et dès qu'on monte, on s'arrange pour monter avant que le soleil ne se lève réellement, de manière à pouvoir éviter que le soleil réchauffe la neige et pour pouvoir tomber dans des pièges. Donc là, on peut dire qu'il descendait. S'il n'avait plus besoin de ses lunettes, il descendait donc sans l'éclairage féroce du soleil. Le corps d'Irvine, lui, il sera jamais retrouvé. Mais tout porte à croire, hein, au vu de ce qu'on a retrouvé sur Mallory, tout porte à croire qu'il était encordé à Mallory. Mais le mystère demeure. Autre chose, hein, autre indice dont il faut parler, c'est que les deux appareils photo qu'ils ont pris avec eux, eh ben, on n'en a jamais retrouvé une seule trace. Mais j'ai envie de dire, ne soyons pas trop inquiets là-dessus, la montagne rend toujours ce qu'elle a pris en son sein, donc je pense qu'on les retrouvera un jour.
Et puis on a eu encore des explorateurs qui sont montés en haut ensuite ?
Oui, d'autres explorateurs les suivront, et d'ailleurs certains resteront là-haut, malheureusement. Il faut savoir que le corps humain, et c'est ça le plus fort dans cette conquête historique de l'Everest, le corps humain est à 20% de ses capacités. En moyenne à cette altitude, et donc j'ai envie de dire, le corps est littéralement en train de mourir. C'en est même un jeu, parce qu'il faut monter et il faut redescendre l'Everest avant d'y rester, sinon vous y restez définitivement. Rajoutez le froid, les graves dangers liés à une météo très fragile, on est quand même à 8 km de haut, quasiment 9 km d'altitude. L'individualisme aussi, bien sûr, parce que à la différence des autres sommets, l'Everest, bah, il faut sauver sa peau avant celle des autres. Et là, on arrive vraiment à quelque chose d'un peu extrême. Je vais même vous raconter une anecdote. On a le temps pour une petite anecdote ?
On a le temps.
On a le temps. Allez, une petite anecdote, c'est y a un homme qui est surnommé Green Boot, qui est sur l'Everest. C'est un homme qui est un alpiniste qui est décédé sur l'Everest. Et il a été surnommé comme ça parce que les corps des personnes mortes sur l'Everest restent sur place. On ne les descend pas parce qu'il faut déjà sauver sa peau avant de ramasser les cadavres qui jonchent le sol. Et donc on a cet homme, Green Boot, qui est un point de repère pour les alpinistes qui veulent grimper. Et bien figurez-vous qu'il y a un homme qui s'est une fois arrêté à côté de Green Boot, juste le temps de reprendre son souffle, etc. Puis avec l'altitude, le froid et tout, il n'a pas vu le temps passer. Quand il a voulu repartir, ben il était totalement gelé, il n'arrivait plus à bouger, il s'est affaissé. Des gens sont passés à côté de lui en pensant que c'était lui, Green Boot, et au final, quelques heures après, il y a quelqu'un qui a entendu gémir, qui s'est approché de lui et qui s'est dit « mince ! C'est pas Green Boot, c'est un gars qui est en train de mourir. » Ben, c'était trop tard. Et il est resté en haut. Voilà. Donc, en conclusion, et ça sera, je pense, le mot de la fin, un mot sur ces aventures, sur ces histoires, sur cet historique. Eh bien, il faut rappeler un principe montagnard qui est un principe de base. Pour qu'une course soit réussie, et c'est un petit peu le cas de Mallory et Irvine, pour qu'une course soit réussie et pour qu'elle soit enregistrée comme succès, il faut que ce soit une course de laquelle on revient vivant.
On termine ta chronique histoire avec un petit coin lecture.
Oui, quelques conseils. Alors, je passe bien sûr sur le film Everest, qui est sorti il y a 2-3 ans de tête, hein, qui est formidable, et avec un livre du même nom, hein, Tragédie sur l'Everest. Mais autre chose qui m'intéresse, c'est le livre, bien sûr, Premier de cordée, de Roger Frison-Roche, qui a bercé des générations. Hein. Roger Frison-Roche, c'est un chamoniard, hein, un habitant de Chamonix, qui est mort dans les années 90-2000, et ce livre est passionnant, il n'a pas pris une ride. Ensuite, c'est pour ceux qui sont plus intéressés par des romans policiers, ce sont les deux romans policiers du Suisse Marc Woltenhauer. Le premier s'appelle Le dragon de Muveran, du nom d'une montagne suisse, et le deuxième c'est Qui a tué Heidi. Heidi n'est pas la personne qu'on croit là-dedans, attention. Hein.
Ah bon?
Exactement. Et bien sûr, deux beaux livres sur la montagne qui me plaisent énormément, avec lesquels je travaille avec mes élèves. Alors le premier, c'est un livre qui est devenu rare, mais qui est très précieux, si vous pouvez l'acheter, foncez. Ça s'appelle Glaces éternelles et éphémères. C'est du photographe Larit, L-A-R-I-T. Et en fait, Larit, avec un autre compagnon, a descendu la plupart des glaciers autour du Mont Blanc pour prendre des photos à l'intérieur de ces glaces. C'est formidable, c'est d'une beauté. Et le deuxième ouvrage, C'est un ouvrage auquel j'ai déjà fait référence, mais sur lequel je veux revenir. C'est l'ouvrage de Vincent Gannet qui s'appelle « Vosges, l'hiver vagabond », qui est d'une beauté et qui est beaucoup plus proche de nous. Et vous connaissez ma sympathie, toute ma sympathie pour le travail de Vincent Gannet, qui a notamment offert un calendrier à une de nos auditrices. Mais à cet ouvrage, « Vosges, l'hiver vagabond », je pense que ça peut être un très beau cadeau de Noël.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci à toi, merci à tous.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des 5 minutes d'histoire.
Voilà, à la semaine prochaine.
Et nous, on continue l'afterwork, on se retrouve à 17h pour les Infos Nationales.